à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur notre Dieu soient sur nous tous. Je vais vous parler de l'amour fraternel selon Jésus-Christ. Mais avant de parler d'amour fraternel, on va prendre acte 2,42, qui est un passage que tout le monde connaît, mais j'aimerais qu'on parte de là. Donc, acte 2,42, ça nous rappelle, en une courte phrase, ce qu'est la vie du chrétien, ou en tout cas ce qu'elle devrait être. Acte 2,42, c'est tout à fait c'est le commencement de l'Église, hein, c'est les premiers jours, les premières semaines. Hein. Ils persévéraient, c'est-à-dire les chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, aucune de ces quatre parties n'est plus importante que l'autre. C'est l'ensemble. C'est comme une table qui a quatre pieds. Est-ce qu'il y a un pied qui est plus important que l'autre ? Non. Et chaque pied est important parce qu'il y a un autre pied. L'enseignement des apôtres, avec la Bible, la parole de Dieu, qu'on lit, qu'on étudie, la communion fraternelle, ce dont on va parler, la fraction du pain, on va en parler aussi, vous allez voir, et bien sûr les prières. Donc tout ça est très important. Cela dit, le monde voit une chose, d'abord et avant tout, c'est la communion fraternelle. Donc si la communion fraternelle ne va pas, tout le reste, exactement comme une chaise, s'il y a un pied qui manque, on ne sera pas bien assis. Alors, je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 34. C'est un passage qu'on connaît très bien. Et vous savez, ces passages qu'on connaît, un petit peu comme... Il y a des gens qui habitent au bord de la mer, qui bénéficient tous les matins d'un paysage absolument somptueux, ils y sont tellement habitués qu'ils finissent par ne plus le voir. Et malheureusement, c'est parfois un peu la même chose pour la parole, il y a des passages qui sont tellement beaux, mais qu'on a lus tellement souvent qu'on finit par ne plus lire. Donc Jean 13, à partir du verset 34. D'abord, je vous donne le contexte. Jésus est avec les 11 disciples. Je dis bien 11, puisque Judas est sorti. Donc, c'est vraiment le groupe de disciples, quelque sorte le noyau dur. Il vient de leur laver les pieds. Donc, il vient faire preuve d'une extrême humilité, puisque c'était la tâche la plus vile, réservée à l'esclave vraiment de base. Donc, et il dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, d'abord, ce qui frappe, c'est en quoi est-ce un commandement nouveau ? Puisque dans Lévitique 19, ceux qui veulent noter peuvent noter Lévitique 19, 18, mais il nous dit « Aimez-vous les uns les autres. » Donc, en quoi, c'est exactement « Aime ton prochain comme toi-même. » Mais en quoi est-ce que c'est nouveau ? Alors, c'est là qu'il ne faut pas commettre l'erreur de se limiter à « aimez-vous les uns les autres ». Mais, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. D'abord, ce qui frappe, c'est la construction. On a l'impression que le Seigneur répète la même chose, mais c'est pas exactement ça. Aimez-vous les uns les autres. Ensuite, il dit « comme je vous ai aimé », prenez exemple sur moi, et ensuite, en conséquence, aimez-vous les uns les autres. C'est comme si dans la vie chrétienne, l'amour était au début, à la fin et au milieu, il y a Jésus-Christ. Donc, première constatation, comme je vous ai aimé. Donc, on ne peut aimer que si on a conscience que Jésus-Christ nous aime. Et c'est à cela que tous verront que nous sommes ses disciples. Tous, ça veut dire chrétien ou non chrétien. La Bible est parfois extrêmement simple, et là, tous, à ceci, tous connaîtront. Donc, l'amour fraternel est très important. Et je vous propose d'abord de se poser la question, qu'est-ce qu'un disciple ? Puisque à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et enfin, comment est-ce qu'on peut développer cet amour de disciple ? Alors, d'abord, un disciple, ça vient d'un mot latin, discipulus ou discipulus, ça dépend comment on le prononce, c'est un apprenti, un élève. Donc, première constatation, un apprenti a un maître d'apprentissage, un élève a un professeur. Et le verbe, que je n'ai pas noté, peu importe, signifie entendre et adhérer. Donc un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui entend. J'en veux pour preuve, Judas a entendu. Judas, il a entendu autant que les 11 autres. Est-il un disciple ? Non. Il a entendu exactement pareil, mais il n'a pas adhéré. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui entend, qui écoute et qui adhère. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir pendant 50 ans à l'Église sans adhérer. Donc nous ne sommes pas disciples. Alors, d'abord, un disciple, c'est privilège et responsabilité. Premier privilège, Matthieu 26-26, qui est un passage qu'on connaît très bien, mais c'est bien quand même de rappeler parfois les fondamentaux. Matthieu 26-26. Voilà. Alors, donc c'est l'institution de la Sainte Cène, bon, que je vais dire entièrement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Matthieu 26-26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à qui ? Aux disciples, pas aux autres, en disant : prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna aux disciples, en disant : buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Tout ça, c'est pour les disciples. Donc la Sainte Cène, la fraction du pain, à chaque fois qu'on participe à cette Sainte Cène, on dit explicitement « Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. » Et nous avons le privilège, quand on prend la Sainte Cène, on la prend avec lui. C'est lui qui nous demande de la prendre, le pain et le vin, même si c'est du jus de raisin, ça ne change pas grand-chose. Mais il faut avoir conscience que quand on prend cette Sainte Cène, on se souvient qu'on est tous égaux. On vient d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Europe, on est tous égaux, on est tous venus du même endroit, c'est-à-dire de la perdition. Et le fait qu'on prenne la Sainte Cène, on se souvient qu'en tant que disciples, nous avons quelque part ce privilège de pouvoir communier avec Jésus-Christ, mort pour nous. Et on se souvient d'où nous sommes venus et d'où nous sommes et où nous sommes maintenant. Nous sommes ses enfants, et c'est ce que la Sainte Cène nous rappelle. Il est mort pour nous et nous l'attendons. Ensuite, deuxième privilège, Matthieu 4, 34, peut-être encore plus beau, c'est tellement beau, ici de fait, Matthieu 4, 34. On peut le prendre à partir du verset 33 peut-être. C'est par beaucoup de paraboles qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de comprendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Matthieu 4, 34. Marc, j'avais bien noté en plus. Hein. Bon, Marc. Ouais. J'avais noté. M-A-T-M-A-R-C. Donc, je répète, pardon. Marc 4, 34. À partir du verset 33, Marc. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, donc ça c'est les autres, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, les disciples ont ce privilège d'avoir une explication directe du maître. Alors, vous allez me dire, mais Jésus-Christ ne nous explique pas. Si, puisqu'il nous a donné son esprit, et donc l'Esprit Saint nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Chacun en fonction de ce dont on a besoin. On a tous fait l'expérience, un passage qu'on a lu 2, 3, 4, 5, 10 fois, et puis un jour, on se dit « Ah, j'avais jamais vu ça !» C'est l'Esprit Saint, on appelle ça l'illumination, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette, entre guillemets, révélation, à nous en particulier, pour nous expliquer la parole, ce dont on a besoin. Et ça, c'est un privilège dont seuls jouissent les disciples, pas les autres. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres, c'est peut-être vrai, mais en tant que chrétien, le plus intelligent, s'il n'a pas Christ en lui, il ne comprendra pas. Il aura l'impression de comprendre, il va aller vers le grec et je ne sais quoi, mais il ne comprendra pas vraiment avec son cœur. Et ça, c'est un privilège en tant que disciple. Prendre la Sainte Cène avec lui, il nous explique tout, mais enfin, tous ces privilèges supposent aussi une responsabilité. Et la responsabilité, c'est Jean qui le dit au 15 et au verset 8. Jean 15 au verset 8. Jean 15. Là, j'en suis sûr. Alors, Jean 15 au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un disciple, par définition, porte du fruit. Alors, il faut faire attention aussi à ne pas trop se comparer avec d'autres. Parce que d'abord, on ne connaît pas tout sur les gens. Il y a toujours des espèces de super disciples qui font des grandes choses. Mais on n'est pas tous appelés à ça. Mais parfois, les fruits ne se voient pas, mais Dieu les voit. Parfois, c'est quelque chose qui est fait en secret. L'important, c'est que nous portions du fruit. Mais simplement, si on pardonne à quelqu'un, on va parler du pardon dans quelques instants, mais, et qu'on se dit, quand j'étais pas chrétien, j'aurais pas pardonné. C'est un fruit. Même si il n'y a pas grand monde qui le voit, porter du fruit, ça veut dire mettre la parole en pratique. Et ça, c'est pas un privilège, c'est une responsabilité que nous avons. Parce que si on ne porte pas de fruit, on a une vie chrétienne déséquilibrée. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'est pas chrétien, c'est pas ce que je veux dire, mais un chrétien doit porter du fruit. Donc si quelqu'un qui est sauvé ne porte pas de fruit, c'est qu'il y a un problème dans sa vie chrétienne, et que sa vie chrétienne est déséquilibrée. Alors, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être, bon, chercher à trop intellectualiser tout, chercher à faire. Bon, mais n'oublions pas que les quatre piliers enseignants des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Si ces quatre piliers sont bien équilibrés, on va porter du fruit. Ou plus précisément, c'est le Seigneur qui nous donnera ce privilège de pouvoir porter du fruit, et pour agir, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, le but n'est pas de nous glorifier nous, mais de le glorifier lui. Et c'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple, il doit glorifier Dieu le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, d'accord ? Nous sommes là pour ça. Alors maintenant qu'on sait ça, la question qu'on pourrait se poser, mais comment faire pour développer cet amour ? Parce que par nous-mêmes, on n'en est pas capable. Et c'est bien normal, puisque un disciple, c'est un peu comme une branche d'arbre. Si on coupe une branche d'arbre, en été, ça va dessécher à toute vitesse. Mais si on la laisse sur l'arbre, elle va rester verte pendant très longtemps. Et vous remarquez que, pourquoi ? Parce que la vie n'est pas dans la branche d'arbre, la vie elle est dans le tronc. Et c'est le tronc qui donne les éléments nutritifs pour que la branche d'arbre puisse croître. C'est exactement la même chose pour le disciple. Un disciple qui reste en Christ porte du fruit. Alors, fort de tout ça, comment développer cet amour, comme on vient de le dire ? Il faut regarder à Dieu, à Christ et aux frères ou sœurs. D'abord à Dieu, 1 Jean chapitre 4, très très important. Pour développer cet amour, l'amour fraternel, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 9. L'épître de Jean est une épître extrêmement courte, mais c'est du concentré, hein. Très très concentré. À partir du verset 9, l'amour de Dieu, 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, première constatation, il nous donne son Fils, qui est le signe ultime de son amour. Alors que nous étions pécheurs. Donc, il nous donne son Fils, alors que, quelque part, nous ne le méritons pas du tout. Il nous donne son Fils, qui est le signe de cet amour. Deuxième constatation, aimer, pour nous, est la conséquence de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, il nous envoie son Fils, remarquez que c'est comme victime expiatoire. Donc, il nous envoie son Fils pour venir mourir pour nous. Donc, Dieu nous aime. Et en conséquence, nous devons aimer les frères et les sœurs. Alors, tout ça peut prendre un certain temps. Mais à chaque fois qu'on est et ça nous arrivera à tous, hein, qu'on éprouve de la haine pour quelqu'un, on doit se dire, je ne devrais pas éprouver de la haine pour cet homme ou pour cette femme, même si parfois il y a des gens qui font des choses qui sont quand même horribles, nous devons nous souvenir que nous sommes un pécheur comme lui, c'est peut-être moins spectaculaire, mais nous sommes de toute façon à la base des pécheurs, tous, autant que nous sommes. Donc nous devons regarder à Dieu qui nous donne son Fils, signe de cet amour. Et l'amour du Père doit être tellement grand dans notre conscience, dans notre cœur, que le fait d'aimer est une conséquence. Il nous aime tellement que le fait d'aimer, mes frères et mes sœurs, doit être une conséquence. Ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça que rester dans la parole, plus vous restez dans la parole, plus on lit la Bible, plus Dieu va paraître grand et plus l'homme va paraître petit. Et c'est pour ça que l'amour qu'on doit éprouver, qu'on va éprouver, va littéralement couler de source. Ça peut prendre un certain temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager si ça ne marche pas tout de suite. Mais ça va marcher. Ensuite, l'exemple de Christ, donc. Le Christ, c'est l'amour ultime, l'amour exemplaire et l'amour sacrificiel. L'amour ultime, d'abord, Jean 15, 13. J'ai beaucoup utilisé Jean. Jean 15, 13. Jean 15, 13. Jean 15, 13. Voilà. J'y suis. À partir du verset 12. Ceci, c'est ceci mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il répète ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il dit par là que la façon dont il aime, c'est l'amour ultime, puisqu'il va donner sa vie pour ses amis et pour le monde entier. Donc, c'est cet amour ultime que nous devons avoir à l'esprit. Donc, quand nous n'aimons pas, il faut toujours se souvenir, et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Donc, cet amour qui vient du Père, qui donne son Fils pour venir mourir pour nous, c'est vraiment l'amour ultime. On ne peut pas aimer plus que ça. Et donc nous sommes appelés à aimer de la même façon. Ça paraît une tâche insurmontable, mais si le Seigneur nous le demande, c'est que, quelque part, c'est entre guillemets possible. Sauf que c'est plus un chemin qu'un but à atteindre, parce qu'on n'aimera jamais autant que lui. Mais ayons l'humilité de le reconnaître et petit à petit, laissons son amour se développer en nous afin que nous puissions aimer exactement comme lui nous le demande, c'est-à-dire de façon ultime. Ensuite, un amour exemplaire, 1 Jean 3, 16. Pour ceux qui ne savent pas par quel verset commencer pour apprendre par cœur, il y a les 3, 16. Hein. Il y a Jean 3, 16, 1 Jean 3, 16. Et il y a, je sais plus si c'est un Timothée ou de Timothée 3,16. Donc si vous savez ces trois-là, vous avez matière à méditation. Donc, 1 Jean 3,16, 16-18. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère en besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Donc là, c'est vraiment une conséquence pratique. Quand on aime quelqu'un, ça doit se voir. D'accord ? Ça doit se voir. Si on dit qu'on aime quelqu'un, la même épître dit, celui qui aime Dieu, qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, comment est-ce qu'il peut dire qu'il aime le frère, qu'il voit ? Tout ça, c'est pas logique. Donc si on aime Dieu, on doit forcément aimer les autres. Et c'est très important de ne pas être sélectif. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous aime. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est agréable avec nous. On ne peut pas trouver tout le monde sympathique, hein, mais on doit aimer tout le monde. Parce que c'est l'exemple qu'il nous donne. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Toujours un amour ultime, un amour exemplaire. Il a donné sa vie pour nous. Y a des gens qui donnent leur vie pour leurs enfants, mais ces personnes donnent leur vie pour des gens qui les aiment. Sauf que quelque part, Jésus-Christ donne sa vie pour des gens qui ne l'aiment pas. Et c'est ça l'amour ultime. Il donne sa vie. Je vous rappelle que les 11 disciples qui restent, il y en a 10 qui sont sauvés. Au pied de la croix, il en reste un. Le plus jeune. Tous les autres se sont sauvés. Bien sûr, ils vont venir. Mais il y a plus grand monde de son petit cercle. Ensuite, un amour sacrificiel. Et ça, c'est très important aussi dans Éphésiens 5. Les deux premiers versets. Éphésiens 5, 2, premier verset. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ça paraît clair. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, toujours cet amour exemplaire, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, il s'est livré lui-même. Donc c'est lui qui décide dans sa liberté. D'abord à Dieu. Il se donne par obéissance, parce qu'il aime son Père. Pour nous, donc, à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce genre de sacrifice, on brûlait tout entièrement. Donc, il ne restait que des cendres. Donc, c'est vraiment cet amour sacrificiel. Donc, un amour sacrificiel, c'est un amour qui rend saint. Donc, c'est le sens du sacrifice. Et donc, un amour total, qui se donne complètement et pas un petit peu. Une offrande et un sacrifice, donc il s'offre, il se sacrifie de bonne odeur. Donc le Père agrée, il le fait pour le Père, pardon, il se livre à Dieu par amour pour lui, mais aussi par obéissance pour nous. Donc lorsqu'on sait à quel point Jésus-Christ est allé loin pour nous, alors que, très franchement, si on est un petit peu honnête, qui mérite vraiment cet amour? Personne. Et c'est pour ça que cet amour est beau. Aimer des gens qui vous rejettent, qui tordent votre message. Seul Dieu peut aimer comme ça. Et donc, c'est en ayant à l'esprit à quel point Jésus-Christ nous aime, on pourra aimer. Par nous-mêmes, on ne pourra pas. Bon, aimer quelqu'un qui nous aime, c'est pas très compliqué. Aimer quelqu'un qui est agréable avec nous, qui nous aime, bon c'est bien aussi. Mais c'est beaucoup plus beau quand vous aimez quelqu'un qui vous rejette, quand vous priez pour quelqu'un qui vous rejette. Ensuite, troisième partie, des frères et des sœurs. Alors, on a parlé de la fraction du pain, mais là, quand on prend la Sainte Cène, on doit vraiment se souvenir, je le dis, je le répète, d'où nous venons et où nous allons. D'où nous venons. On vient de pays différents, de cultures différentes. La plupart d'entre nous, on n'habite pas les mêmes quartiers, on ne fait pas le même métier, on ne fait pas nos courses au même endroit même, puisque donc on n'habite pas. Donc on ne se serait jamais rencontrés. Et pourtant, on s'est rencontrés, et très franchement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour dans cette église. Mais, et donc, les différences humaines sont complètement gommées. Il n'y a pas d'Haïtien, il n'y a pas d'Antillais, il n'y a pas d'Africain, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Italien, il n'y a pas d'Asiatique, il n'y a que des frères en Christ. D'accord? Alors, c'est bien qu'il y ait des cultures différentes, mais quelque part c'est secondaire. C'est d'abord l'amour de notre Seigneur pour nous qui nous unit. Et l'amour fraternel, c'est ça. Jean-Pierre, Marlène, Roland, d'endroits différents, et pourtant le même amour nous unit. C'est pas mon amour à moi, c'est l'amour que Christ met en nous. Je vous invite donc à aller dans Hébreux 10, là encore un passage qu'on connaît, à partir du verset 24. 10, 24. Alors, très important. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, la communion fraternelle est importante. En quelque sorte, c'est une communion fraternelle qui va s'auto-nourrir. On aime les frères, et le fait que les frères nous aiment nous pousse encore à l'amour. Une espèce de cercle vicieux positif, d'accord ? Que le fait d'être avec des gens, il y a une chose qui m'a touché il y a 10 jours, je n'étais pas présent à la réunion de prière, mais il y a une sœur qui m'a dit, c'est entre guillemets un peu qui était pour toi, donc on se demandait, donc on a prié pour toi. J'ai été touché parce que j'avais rien dit, je n'ai pas appelé, j'avais rien demandé, et c'est probablement ça qui m'a le plus touché, c'est que je ne demande rien et on prie pour moi. Et peut-être un autre exemple, ça vous arrive de temps en temps, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, et quelqu'un qui vous dit, petite voix, prie pour un tel. Vous ne savez pas pourquoi, je ne sais pas, on est en train de travailler, ou n'importe quoi, prie pour un tel. Bon. Donc on prie, et j'étais allé voir la personne, il dit, mon frère, j'ai eu l'idée tel jour à telle heure, prie pour toi. La réponse était un grand sourire. Donc, sans doute que, là aussi c'est l'amour fraternel, c'est l'Esprit Saint qui nous dit que, mais surtout si vous avez tout d'un coup, sans aucune raison, prie pour Jean-Pierre, prie pour Roland, prie pour Marlène, prie pour Alex, faites-le. Vous ne savez pas pourquoi, mais si vous avez sans aucune raison cette idée, faites-le. D'accord ? Si vous avez l'occasion, dites-le donc au frère ou à la sœur, ou peut-être même pas. D'accord ? C'est peut-être quelque chose de privé, ne le dites pas forcément. Ensuite, au verset 25, qui est la conséquence, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Allez au culte. C'est extrêmement important. Parce qu'on a la chance d'y aller. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont seuls parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas possible. D'abord, il n'y a pas d'église à côté, ou alors elle est très loin. Ensuite, ils vivent dans un pays où l'église est persécutée, il n'y a pas moyen, ils sont tout seuls. Alors, eux reçoivent une bénédiction particulière, parce qu'ils sont dans une situation très très particulière, mais nous avons la chance de pouvoir aller à l'église. Donc, allons-y. Même si parfois, alors parfois on se dit mais c'est long. Alors je me suis fait la réflexion et je vais m'adresser aux hommes. Quand on était fiancé, quand on allait voir notre fiancé, on regardait notre montre. Bah écoute, ma chérie, c'est 2 heures, je suis avec toi. Non, c'est 2 heures, ça suffit. Hein. Bon, non, attends, là ça suffit, je vais rentrer chez moi. En tout cas, moi je ne regardais pas ma montre. Hein. Donc ça devrait être pareil vis-à-vis du culte. On est avec un Seigneur qui nous aime beaucoup plus que nos épouses, même si nos épouses nous aiment. C'est quand même pas la même chose. Donc, ne regardons pas nos montres. Alors, bien sûr, si on a quelque chose sur le feu, c'est un petit peu différent. Mais le culte est très important, parce que dans le culte, on prend des forces. Quand on rentre l'après-midi, on a l'impression d'être plus fort. Parce que on a vu les frères, on a ouvert la Bible, on a prié. Dans le culte, il y a les 4 piliers. Même si on ne prend pas forcément la Sainte Seine à chaque fois, quelque part, ça y est quand même. Donc, c'est très important. Et le culte, la meilleure journée de la semaine, ça doit être le dimanche. Parce que le dimanche, on vient trouver Dieu de façon différente. Bien sûr, il est toujours avec nous. Mais on vient le voir d'une façon différente. Et on vient voir les frères et les sœurs. Alors, à présent, quelles conséquences dans nos vies ? Parce que on a parlé d'amour fraternel, mais de façon un petit peu globale. Maintenant, on va aller par du global pour aller au spécifique, que le témoignage est creux sans l'amour fraternel. On va revenir à Jean 13, versets 34 et 35. Voilà. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Disciples, on a compris ce que c'était, apport de l'amour les uns pour les autres aussi, mais à ceux-ci, tous connaîtront. Tous, c'est qui ? Alors, c'est bien sûr des gens du dehors, mais c'est aussi notre propre famille. Les enfants qu'on a, quand ils sont petits, le témoignage est très important parce que s'ils voient des frères et des sœurs se disputer entre eux, pas s'entendre, dans un. L'esprit d'un enfant fonctionne, hein, et donc. Il va se dire, mais papa me dit ça, maman me dit ça, donc ils sont en train de se disputer. C'est pas logique. Papa dit quelque chose et il fait autre chose. C'est quand même bizarre. Un petit peu comme si papa a les mains sales et demande à son fils de se laver les mains. Oui, ça paraît bête, mais c'est un petit peu ça. On se lave les mains d'abord, quand on a les mains propres, on dit à son fils, pour être un bon exemple. Alors, souvenez-vous que cet amour, c'est quand même au cœur. si vous montrez de l'amour, si vos enfants voient que vous avez de l'amour, là, c'est un témoignage. Et c'est un témoignage très très puissant, sans mettre des mots dessus. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 13, d'accord ? Le plus important... On va prendre un morceau d'1 Corinthiens 13. Je sais qu'on connaît, mais ça fait partie des passages qui sont bouleversants. 1 Corinthiens 13, 13. On pourrait tout lire. Il y a des paroles dont on ne se lasse pas. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Je vais reprendre quand même. Maintenant donc, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si vous avez toute la connaissance biblique, si vous lisez la Bible depuis 50 ans, mais que vous manquez d'amour, c'est creux. Si vous avez une foi immense, que vous croyez que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment, mais que vous ne montrez pas d'amour, le témoignage est creux. Et même, à la limite, si votre connaissance biblique est encore un peu faible, parce qu'au début, il y a une première fois pour lire la Bible, donc une deuxième fois, mais que vous montrez de l'amour, là, ça paraît crédible. Donc, c'est l'amour d'abord, et c'est l'amour qui va grandir, mais c'est l'amour d'abord. Alors, l'amour, oui, mais la parole d'abord. Toujours Jean 8, 32. Jean 8, 32. Jean 8, 32. C'est un passage qu'on connaît, hein, mais il faut se redire ces passages. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, le disciple doit avoir envie de lire la parole. Et si à certains jours on peut être très occupé, on ne peut pas en lire autant qu'on voudrait, quelque part on peut être déçu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ou vous rendra libre pour certaines versions. Donc c'est la parole d'abord. Comme on vient de le dire, plus on lit la parole, plus on a envie de la lire. Et plus on lit la parole, plus l'amour de Dieu grandit en nous. Et donc, si l'amour de Dieu grandit en nous, on va aimer plus. Et alors, et je terminerai là-dessus, quel est, à votre avis, l'ultime preuve d'amour, c'est pas, on a tous dit bonjour à Brigitte quand on est arrivé. C'est très bien, ça nous fait plaisir à tous, mais il y a plus que ça. Prendre des nouvelles des frères et des sœurs, c'est bien, mais il y a plus que ça. Jusqu'à maintenant, une association de quartier fait la même chose. Prier les uns pour les autres, déjà ça nous démarque. Mais le plus important, c'est de se pardonner. Parce que nous sommes des pécheurs pardonnés. Donc, l'Église parfaite n'existe pas, puisque nous y sommes. Donc, il y aura forcément des disputes, il y aura forcément des heurts, il y aura forcément des différends. La question n'est pas là. La question est comment on fait avec ces heurts, comment on fait avec ces différends. On va voir le frère ou la sœur. Même si on a l'impression que ce n'est pas de notre faute, parce qu'on a parfois l'impression que une dispute ne vient pas de nous, et pourtant c'est peut-être mal exprimé, on s'est mal fait comprendre, donc vous savez, pour se disputer, il faut être deux. Même si peut-être que l'un a plus de tort que l'autre, les torts sont généralement partagés. Donc, le pardon, c'est quelque chose de difficile. Et Dieu le sait que c'est difficile. Souvenez-vous de la parabole de l'homme qui doit 10 000 talents d'un côté, à qui on remet sa dette, et à qui on doit 100 deniers. 100 deniers, c'est une grosse somme. J'ai fait le calcul par rapport au cosmique horaire, c'est plus de 6 000 euros. Mais les 10 000 talents, c'est plusieurs millions. Donc, le Seigneur ne nous dit pas que l'offense n'est pas grand-chose. Si quelqu'un vous doit 6 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Mais par rapport à des millions d'euros, c'est pas grand-chose. Donc, oui, on a été offensé. Oui, c'est pas anodin, mais par rapport à ce que le Seigneur nous pardonne, c'est pas grand-chose. Alors, certains ont plus de facilité, une question. Certains sont plus ou moins rancuniers, d'autres ne le sont pas, ça c'est plus un trait de caractère, mais on doit arriver à prier. Si vous n'arrivez pas à prier, confiez-le au Seigneur. Et vous allez voir que ça va donner. Donc on va terminer justement sur l'importance du pardon, sur Colossiens 3, 13. Très 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 beau passage. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Voilà. Alors, 3.13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je vous rappelle que notre Père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est parce qu'il nous pardonne que nous pardonnons. Le fait de pardonner n'est pas une espèce de condition. C'est parce qu'il nous pardonne que nous pardonnons. Et ici, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, si on n'arrive pas à pardonner, il y a peut-être un petit truc. C'est de se souvenir de ce que Christ ne nous a pas pardonné. C'est rien. Il nous a tout pardonné. C'est vraiment le gros lavage à la soude caustique. Hein. Il ne reste rien du tout. Donc, souvenons-nous de ça, si on a du mal à aimer. Et souvenons-nous que l'amour fraternel, ce n'est pas une option, c'est très important. On doit prier pour ça. Et surtout, se laisser faire par la grâce. Parce que c'est par grâce qu'on aime. Par nous-mêmes, on ne peut pas aimer.